sur d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, des sifflets, des slogans rageurs. En Serbie, la mobilisation se poursuit depuis plus de 4 mois contre la dictature du président Aleksandar Vučić. Samedi dernier, ils étaient encore 50 000 au moins dans les rues de Belgrade. Malgré les attaques quotidiennes du régime, l'opposition citoyenne unie tente de redonner un sens à la démocratie. C'est le reportage de Philippe Bertinchamp.
C'est devant le Parlement, sous un ciel pluvieux, que la foule s'est donné rendez-vous. Sur l'immense podium, les orateurs se succèdent. Intellectuels, journalistes, membres de la société civile. Criminels, démission, il est fini. Les slogans fusent sous les sifflets parmi la foule. Pour ce premier rassemblement unitaire, les manifestants sont venus des quatre coins du pays, comme le signalent les grandes banderoles portées avec fierté. Goran fait partie de l'alternative locale de Vrbas, une ville située à une centaine de kilomètres au nord de la capitale.
Le despotisme s'exerce à tous les niveaux dans le pays. Il n'y a que 3 villes dirigées par l'opposition. Les autres sont aux mains du Parti progressiste de Serbie au pouvoir. Ils ont mis en place des structures parallèles. Ils ont légalement manipulé les élections à leur profit. Et nous nous battons contre ça. À Vrbas, on manifeste tous les dimanches. La semaine prochaine, nous organisons notre 10e rassemblement.
La mobilisation a commencé le 8 décembre, après qu'un représentant de l'opposition a été agressé à coups de barre de fer. Depuis, la contestation s'est étendue à près de 100 villes en Serbie. Ces cortèges rassemblent des citoyens de tous horizons, de la gauche radicale à la droite souverainiste. Face à l'omerta des médias, l'opposition doit combattre unie si elle veut se faire entendre, comme l'explique Sorjan, membre de l'ONG Jedanot 5 Miliona, 1 sur 5 millions, qui coordonne le mouvement.
Pour ce gouvernement, tous ceux qui ne sont pas d'accord, qui ont une opinion différente, sont des ennemis et ils nous traitent de la même façon. Si nous voulons changer ce système, il faut donc travailler ensemble. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra faire passer le message qu'il n'y a pas de liberté ici.
Ce grand mouvement citoyen puise ses racines dans la contestation qui a commencé au printemps 2016 dans la capitale contre le gigantesque et controversé projet urbanistique Belgrade Waterfront. Un an plus tard, Aleksandar Vučić faisait face à d'importantes manifestations contre son élection triomphale à la présidence. Les opposants l'accusaient d'avoir mené sa campagne électorale alors qu'il était Premier ministre et bénéficiait d'un temps de parole 10 fois supérieur à celui de tous ses rivaux réunis. Ces mobilisations ont donné naissance au Front Citoyen, un réseau qui fédère toute une série d'initiatives locales contre la corruption et la capture des institutions. Dobrica Veselinović est l'un des fondateurs du collectif Nedavimo Beograd.
Je crois que nous pouvons devenir un bon contre-pouvoir. Tout le monde redoute ce qui est en train de se passer. Tous les vieux partis, ceux qui sont au gouvernement comme ceux de l'opposition, sentent bien que quelque chose de nouveau est en train d'émerger, quelque chose à quoi ils ne s'attendaient pas. Nous voulons avoir une démocratie qui fonctionne réellement.
Si ce front citoyen tente de redonner un sens à la démocratie en Serbie, beaucoup ne croient plus en l'avenir de leur pays et les jeunes sont de plus en plus nombreux à prendre la route de l'exil. Il y a quelques jours, des étudiants du groupe 1 sur 5 millions organisaient une performance autour de l'université de Belgrade avec l'objectif d'alerter sur les risques de cette tendance. Collés sur leurs valises, les drapeaux des États membres de l'Union européenne avec un sticker ironique « L'avenir de la Serbie ». Parmi eux, Kika, 20 ans.
J'étudie la littérature serbe. Mais s'il n'y a pas de changement radical, il n'y aura pas d'avenir dans ce pays. Et en même temps, avec mon diplôme, je ne peux pas non plus espérer travailler à l'étranger.
La Serbie est candidate à l'Union européenne depuis 2009. Pourtant, ces 7 dernières années, l'état de droit a fait un grand bond en arrière sans que jamais Bruxelles n'y trouve à redire. De quoi décourager les plus europhiles, comme l'explique Sorjan. Il ne cache pas sa déception envers les responsables européens qui considèrent Aleksandar Vučić comme un chef d'État garant de la stabilité régionale, une stabilocratie.
Ils disent que ceux qui ont instauré ici une stabilocratie peuvent faire ce qu'ils veulent. que ce n'est pas un problème s'il n'y a pas de médias libres et si le gouvernement est corrompu. En les soutenant, ils soutiennent tout ce à quoi l'Europe s'oppose. Ceux qui croient en l'Union européenne et veulent l'intégration cessent de lui faire confiance, parce que l'UE montre qu'elle aussi peut soutenir ce genre de régime et tourner le dos à ses valeurs.
Ignoré par les médias dominants et vilipendé quotidiennement par les autorités, le mouvement citoyen entend malgré tout poursuivre, dans l'unité, son combat pour une Serbie libre, comme le promet l'un de ses slogans. Quant au président Vučić, bien décidé à ne rien céder, il a annoncé une immense contre-manifestation vendredi 19 avril.
Vouloir un garçon à tout prix, c'est le cas dans nombre de pays encore, où les familles dénigrent la naissance d'une petite fille. Voilà ce qui se passe encore en Chine, en Azerbaïdjan et même dans certains pays européens comme l'Albanie ou le Monténégro. Quant à l'Arménie, c'est le troisième pays au monde où le taux d'avortement sélectif au détriment des filles est le plus haut. Malgré l'interdiction il y a 3 ans de pratiquer des IVG en fonction du sexe, les familles arméniennes ont encore du mal à considérer l'arrivée d'une fille comme une bonne nouvelle. À Yerevan, le reportage de Constance Léon.
À 3 heures au nord-est de la capitale arménienne, la zone rurale de Gerarkounik est la région qui compte le plus d'avortements sélectifs de filles du pays. Une pratique répandue mais taboue. À 42 ans, Tamara Gevorkian habite à Chambarak, dans la région de Gerarkounik. Sa belle-famille voulait qu'elle avorte alors qu'elle attendait sa 4e fille.
Beaucoup de gens nous disaient « Vous avez déjà 3 filles, à quoi va servir la 4e ?» Mais quand nous avons su que nous allions avoir la 4e fille, mon mari a dit que ça lui était égal que l'enfant soit une fille ou un garçon, et que nous aurions l'enfant et que nous le garderions.
À 3 mois de grossesse, l'avortement n'est plus permis par la loi arménienne. C'est à ce moment que le médecin annonce le sexe du fœtus. Certaines femmes décident d'avorter lorsque c'est une fille. Les femmes paient alors le médecin pour effectuer l'avortement au-delà des délais légaux ou se procurent une pilule abortive. Une décision influencée par les stéréotypes de genre qui ont la peau dure dans toute l'Arménie.
Les femmes qui choisissent d'avorter quand elles attendent des filles veulent prolonger la lignée familiale grâce aux garçons, notamment grâce au nom de famille. C'est comme un héritage. Mon mari et moi, nous sommes très heureux d'avoir 4 enfants, 4 filles. Nous les aimons chacune à notre manière. D'ailleurs, si j'avais une meilleure santé et l'opportunité, j'aurais plus d'enfants encore.
La tendance ne fait qu'augmenter depuis la fin de l'Union soviétique. En 2018, l'écart s'est réduit entre les naissances de filles et de garçons. Ces chiffres, difficiles à obtenir pour les autorités arméniennes, sont calculés par rapport au taux de naissance et au sexe de l'enfant. Plusieurs facteurs se retrouvent dans le choix de l'avortement sélectif selon un rapport publié en 2012 par le Fonds des Nations Unies pour la population. Un salaire bas, un habitat rural, éloigné des services de santé et du marché de l'emploi qu'offre la capitale, et surtout l'entourage des femmes qui ont également pratiqué l'avortement sélectif en secret.
Bonjour, bienvenue dans notre centre. Je m'appelle Kenarik Makarchan, je travaille au Women Resource Center en tant que coordinatrice des projets liés à l'édification de la paix. J'ai 27 ans. D'abord, je veux vous montrer la fresque qui est peinte sur le mur de l'entrée. On y voit plusieurs femmes qui tiennent des pancartes avec plusieurs slogans. Sur l'un d'entre eux, il est écrit « Hurrah, c'est une fille !» C'est un message positif sur le fait d'avoir une fille. Les gens pourraient se dire « Je suis heureuse d'avoir une fille ». C'est un plaidoyer pour lutter contre les avortements sélectifs.
Pour la militante de l'association arménienne Women Resource Center, basée dans le centre d'Erevan, l'État doit mettre en place des politiques publiques différentes.
Beaucoup de gens disent qu'il faut encadrer les avortements sélectifs avec des lois, mais on a vu dans d'autres pays que cela ne fonctionnait pas. Si nous voulons que la situation change, il faut éveiller les consciences, donner plus de pouvoir aux femmes. On doit créer des opportunités égales pour les hommes et les femmes, notamment dans le monde du travail, au niveau du salaire. Apprendre aux parents à élever leurs enfants, filles et garçons, de la même manière. En d'autres termes, on doit modifier la manière dont les gens voient les choses.
La plupart des défenseurs des droits des femmes arméniennes parlent désormais d'avortement en préférence des garçons. Un terme qui pointe directement du doigt les inégalités à l'origine des avortements sélectifs en Arménie.
De l'avortement sélectif au droit à l'avortement. Et ce droit est-il aujourd'hui menacé en Europe? On peut se poser déjà la question pour la France, où des gynécologues expriment publiquement leur réticence à pratiquer l'interruption volontaire de grossesse, et alors qu'existe encore la clause de conscience qui permet aux médecins de refuser de pratiquer une IVG. Mais qu'en est-il dans le reste de l'Union européenne? Le Conseil de l'Europe s'est inquiété il y a 2 ans de restrictions rétrogrades, et c'est ce qu'on va voir avec Daniel Vigneron. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Alors Daniel, le droit à l'avortement est-il remis en cause en France?
Non Catherine, affirmer cela serait très excessif. Mais la France n'échappe pas à la montée générale des courants conservateurs et traditionnels qui font de la remise en cause de l'IVG un de leurs combats symboliques. Un certain émoi a ainsi été causé à l'automne dernier par les déclarations du président du syndicat national des gynécologues et obstétriciens français, Bertrand de Rochambeau, qui avait affirmé « nous ne sommes pas là pour retirer des vies ». Il y a eu parallèlement quelques exemples de centres hospitaliers publics qui ne proposaient plus d'IVG alors que la loi leur fait obligation de le pratiquer. Quant aux médecins qui peuvent toujours mettre en avant leur clause de conscience pour refuser de pratiquer un IVG, ils ont l'obligation d'orienter les demandeuses vers un autre médecin. Au demeurant, on estime entre 3 et 5 000 le nombre de résidentes en France qui vont se faire avorter à l'étranger, chiffre assez dérisoire par rapport aux 216 000 IVG pratiqués annuellement dans l'Hexagone.
Quels pays interdisent encore l'avortement dans l'Union européenne?
Seuls Malte et l'Irlande du Nord imposent une interdiction absolue puisque la République d'Irlande a légalisé l'IVG l'an dernier. Les Nord-Irlandaises peuvent néanmoins faire interrompre leur grossesse en Grande-Bretagne. À Chypre, l'avortement était jusqu'à l'an dernier limité au risque de santé, mais il est désormais possible après consultation d'un médecin. En revanche, l'IVG n'est autorisé en Pologne qu'en cas de viol ou de malformation du fœtus.
Ailleurs, l'avortement est donc libre.
Dans plusieurs pays, il est possible, mais assorti de conditions restrictives. À commencer par l'Allemagne, où l'IVG est simplement dépénalisé. Outre-Rhin, les patientes doivent consulter obligatoirement un centre spécialisé agréé, qui est souvent dépendant d'une église, a priori hostile à l'IVG. En outre, jusqu'à janvier dernier, toute publicité était interdite, rendant malaisée l'information des femmes. Cette disposition vient d'être assouplie. Mais l'IVG n'est remboursé que partiellement par les Länder, et à condition que la femme justifie de bas revenus. Enfin, très peu de médecins pratiquent l'IVG outre-Rhin. C'est également le cas en Italie où 70% des gynécologues sont objecteurs de conscience. Il s'ensuit de longs délais d'attente pour les candidates à l'IVG dans la péninsule, ce qui explique un nombre très élevé d'avortements clandestins, peut-être 50 000 annuels, estime-t-on. En outre, les Italiennes doivent justifier leur demande d'IVG. Même chose en Belgique, Pays-Bas ou Finlande, où l'on exige de justifier d'un état de détresse.
Quid de l'Espagne, Daniel?
Une tentative de restreindre considérablement le droit à l'IVG instauré seulement en 2010 a été repoussée en 2014. Mais depuis 2015, les mineurs espagnols doivent obtenir le consentement de leurs parents à l'IVG, ce qui constitue un recul. Recul également au Portugal, où depuis 4 ans, l'IVG n'est plus remboursé.
Finalement, les pays européens où l'IVG est totalement libre et gratuit sont rares.
Tout à fait. La plupart des pays de l'UE connaissent une IVG soumise à autorisation ou à des conditions particulières, tandis que l'intervention n'est pas remboursée ou seulement partiellement. La gratuité existe dans plusieurs pays, mais s'accompagne de restrictions, même au Danemark, où les mineurs doivent en principe obtenir une autorisation parentale. En Suède, il n'y a aucune autorisation requise, mais une petite participation de la patiente est exigée. Aux Pays-Bas, le délai minimal de réflexion, récemment supprimé en France, demeure. En fait, seule la France connaît un régime d'IVG totalement libre et gratuit.
Daniel Vigneron de MyEurope.info. À bientôt Daniel.
À bientôt Catherine.
Vous savez, en France, l'avortement fait souffrir beaucoup de monde. Bien sûr, les femmes, mais aussi les hommes, les familles et la société tout entière. Vous savez, en France, il y a 220 000 IVG par an pour 800 000 naissances. Ce qui fait que si vous êtes né après 75, on avait une chance sur 5 d'y passer. Mais plus grave, certains d'entre
vous... Et voilà, la communication très efficace qu'emploient certains groupes anti-avortement qui se cachent derrière ces messages séduisants. C'est le cas donc des survivants. Ces militants sont jeunes, très conservateurs, quand ils ne sont pas carrément d'extrême droite. Et ils ont tout compris aux nouvelles méthodes de communication. Peu importe la façon dont on parle d'eux, du moment que se crée un buzz, même si le message est brouillon, voire absurde, ces groupes encore très minoritaires font pression en France et en Belgique, avec notamment des marches pour la vie. Ce qui fait dire aux militantes féministes que le combat de Simone Veil dans les années 70 n'est pas tout à fait terminé. Perrine Jouan s'est d'abord rendue au planning familial et y a rencontré Isabelle Louis.
Le délai en France, il est de 14 semaines, c'est un délai très court. Il y a des femmes qui partent tous les jours avorter à l'étranger, qui doivent donc financer par leurs propres moyens leur avortement ou qui malheureusement ont recours à des avortements illégaux en France en mettant leur santé en danger. Comment font les femmes qui ont très peu pour vivre? Comment font les femmes qui n'ont pas de papier pour se déplacer dans l'Europe? Comment font les mineurs?
Mais même dans le cadre de délais légaux, l'accès technique à l'IVG se complique. Isabelle Louis déplore un manque d'offres dans certains départements. En effet, les centres IVG se font rares.
Il y a déjà peu de centres IVG. Il y en a pas mal confirmés en Ile-de-France ces derniers temps. Par exemple, prenons la Seine-et-Marne. Si on habite à côté de Fontainebleau, on ne peut pas choisir la méthode pour interrompre la grossesse. Ils ne proposent que la méthode médicamenteuse. Si on habite au milieu de la Seine-et-Marne, alors là, on va devoir faire des kilomètres pour pouvoir accéder au CIVG le plus proche.
De moins en moins de praticiens également et un choix de méthode restreint, ce que déplore Chantal Birman. Elle a été sage-femme, elle est toujours engagée. Elle est notamment la vice-présidente de l'Association nationale des sages-femmes orthogénistes.
Comme il y a de moins en moins de praticiens de l'aspiration, du coup on fait de plus en plus d'IVG par mode médicamenteuse. En disant aux femmes, ça sera plus vite fait, vous avez intérêt à faire ça, voilà.
Normalement, les services de gynécologie obstétrique de chaque hôpital public sont dans l'obligation d'intégrer l'activité d'interruption volontaire de grossesse. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, Chantal Birman.
Quand c'est organisé et que c'est fait contre la volonté du chef de service, c'est mal fait. Les femmes sont mal accueillies, les gens ils sont mal à l'intérieur, il n'y a pas de respect par rapport à ces actes-là.
Actuellement, médecins généralistes, gynécologues, planning familiaux et sages-femmes peuvent prescrire l'avortement médicamenteux. Mais un collectif de sages-femmes porté par l'ANSFO souhaite pouvoir pratiquer également l'IVG instrumental.
L'avortement peut être vécu par une femme comme une amputation de quelque chose. Là, non. Elle est du côté inscrite de la fertilité. Elle a eu des avortements, elle a eu des fausses couches, elle a eu des enfants. Voilà, c'est la vie des femmes.
En France, une femme sur trois est concernée par l'IVG et y aura recours au moins une fois dans sa vie.
Comme en Italie ou même en France, dans les hôpitaux de Croatie, de plus en plus de médecins et de sages-femmes invoquent cette fameuse clause de conscience pour refuser de pratiquer des avortements. Alors afin d'aider les femmes qui veulent avorter, des militants ont conçu et mis en ligne une carte interactive de l'accès à l'IVG. Simon Rico.
Il n'existe aucune règle claire sur la clause de conscience en Croatie et cela conduit ces derniers temps à des dérives de plus en plus médiatisées. À Dubrovnik, un gynécologue a récemment été contraint de pratiquer un avortement sans anesthésie parce que tous les anesthésistes avaient fait valoir cette fameuse clause. Cette affaire a été rendue publique par la présidente de l'Ordre des sages-femmes. Indignés, les hackers du groupe Code for Croatia ont décidé de réaliser une carte interactive de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse en Croatie en se basant sur les données recueillies par deux journalistes. La carte donne des informations sur les 27 hôpitaux publics croates pratiquant l'IVG, le nombre de gynécologues obstétriciens dans chacun de ces établissements, le nombre qui se réclame de l'objection de conscience et les prix moyens des interventions. Il apparaît que c'est dans le nord-est de la Croatie qu'avorter est aujourd'hui le plus difficile, mais la situation a tendance à se compliquer aussi dans la capitale Zagreb. En Croatie, 58% des gynécologues font valoir leur clause de conscience et près de 15% des 1700 sages-femmes font de même. Tels sont les chiffres de l'Ordre des sages-femmes qui précisent qu'une praticienne sur deux choisirait d'être objectrice de conscience si elle ne craignait pas que cela puisse nuire à sa carrière. Soutenus par la puissante et très réactionnaire Église catholique, les mouvements pro-life ont retrouvé de la vigueur ces dernières années en Croatie et ils mènent d'intenses campagnes pour restreindre, voire interdire, l'interruption volontaire de grossesse. Ils disposent en outre d'importants relais au sein de la majorité nationaliste conservatrice au pouvoir. Voilà qui marquerait un curieux retour en arrière, alors que la Yougoslavie, dont la Croatie faisait partie jusqu'en 1991, fut l'un des pays pionniers de l'IVG.
Françoise Grelot était à la réalisation et à la mise en onde, évidemment. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr ou sur les réseaux sociaux.